9h43 minutes et au bout du fil, on a M. Yves Graveteau qui est le directeur général de l'OBVT. Bon matin, M. Graveteau.
Bon matin, M. Bertrand.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Oui, malgré tout, oui, ça va bien. On sait que, bon, cette année, on lutte contre un virus, les inondations, on le sait, hein, ça a été un enjeu majeur le printemps dernier. Vous allez nous faire ce matin un petit topo sur les circonstances qui mènent justement aux inondations et sur le rôle de chacun dans la prévention.
Exactement, c'est ça. Donc, cette année, on a une nouvelle bataille qui est effectivement le fameux virus. Mmh. Mais je voulais rappeler à tous que l'année passée, à la même date, ben, on se préparait à avoir des terribles inondations. Cette année, ça semble pour être moins pire, moins dramatique, mais je voulais faire un petit rappel aujourd'hui sur la situation des inondations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, d'où ça vient les inondations? Et voilà, quelques petits rappels d'usage en cette saison.
Alors, allons-y avec les mises en contexte.
Donc voilà, un petit rappel sur les inondations, en quoi ça consiste. Donc les inondations, ben, c'est une quantité d'eau qui est hors de l'ordinaire en un même endroit pendant une certaine durée, donc pas très compliqué là-dessus. Sauf que ça entraîne souvent des conséquences, bon, plus ou moins positives selon les lieux et selon la présence de nos activités. Donc faut savoir que parfois ça peut être très positif, comme en agriculture. Donc l'eau qui inonde des plaines agricoles, ben, ça amène des éléments fertilisants. Ça a même permis l'émergence de la fameuse civilisation égyptienne dans l'Antiquité et d'autres civilisations ailleurs, mais ça peut aussi menacer des populations entières. Donc on a vu le cas l'année passée de la digue qui s'était effondrée près de Montréal, puis ça avait fait des gros problèmes. Donc ça, on le voit un peu partout en cas d'inondation. Donc c'est ça, un petit rappel là-dessus sur les conséquences qui peuvent être très, très variées selon l'utilisation qu'on a du territoire.
Voilà.
Donc, à l'échelle de la planète, on a plusieurs causes d'inondations. Donc la plupart, c'est généralement des phénomènes météo. Donc on parle plus souvent des pluies continues, des ouragans, les moussons, qui sont les plus spectaculaires. Mais pour notre territoire, on parle beaucoup aussi de la fonte saisonnière, des glaces et des neiges. Donc c'est là que je voulais en venir. On l'a tous remarqué ces jours-ci, là ça fond pas mal.
Oui.
Il y a aussi d'autres endroits, comme au niveau du fleuve, on a les grandes marées, les vents dominants qui sont parfois très importants et qui peuvent amener beaucoup d'eau sur les terres, mais pour notre région, bah, ça s'applique moins. On peut avoir des accidents comme les bris de barrage, les tsunamis, les digues qui lâchent. On espère en avoir le moins possible. Les tsunamis, ici, ça devrait aller. Mais c'est ça, les digues et les barrages qui brisent, ça peut arriver. Voilà. Ça peut être des barrages naturels, comme les barrages de Castor. Là, ça peut entraîner des inondations assez importantes. Ou l'artificialisation des cours d'eau. Là. Donc, quand on met du béton autour des cours d'eau, ben, on les empêche de sortir de leur lit. Mais quand ils sortent, ben, souvent, ben, on s'est construit à côté. Donc, ça pose des gros problèmes aussi.
Oui, non, allez-y.
Donc, c'est ça. Puis sinon, évidemment, ben, la mise en eau des grands réservoirs sur notre territoire, ben, ça a été des fameuses inondations ben, qui sont toujours là. Donc, ça, c'est plus un contexte historique. Là.
Puis vous parlez aussi de prévention. On peut faire de la prévention aussi, là.
Ben effectivement. Donc, on sait que le meilleur moyen de se prémunir des effets d'une inondation, ben, premièrement, c'est de ne pas se trouver là où elle se produit, donc de se mettre en hauteur. Mais ça, c'est plus difficile en Abitibi-Témiscamingue parce que des cours d'eau, on en a un peu partout et vraiment en grande, grande quantité. Donc ça, c'est plus compliqué. Et en plus, ben, malheureusement, on n'a pas forcément les cartes des zones inondables. C'est encore quelque chose qui traîne un peu de la patte dans notre secteur. Là. Les cartes des zones inondables ne sont pas encore bien établies. Puis on espère que ça s'en vienne dans les prochaines années. Mais en attendant, quand on achète un terrain, et on ne sait pas où c'est la zone inondable.
Donc on travaille là-dessus là, pour les cartes.
Oui, ça c'est plus dans la cour des municipalités pour l'instant, mais oui, il y a eu du financement accordé par le gouvernement du Québec pour mettre en place de nouvelles démarches pour créer ces cartes de zones inondables. Oui.
Parlez aussi d'adapter son habitat.
Effectivement, donc bah, le plus simple, c'est quand on a un terrain au bord de l'eau, bah, c'est de penser à où est-ce qu'on met ses installations. Bon, on peut pas toujours déplacer un garage ou une remise, mais quand les installations deviennent en fin de vie utile, bah, on peut penser à au moment de la rénovation ou de la reconstruction, les placer à un meilleur endroit. Donc on a vu beaucoup de remises au bord de l'eau se faire inonder l'année passée, ou même des maisons qui se sont fait inonder. Bah, ce qu'on peut déplacer, on va essayer de le déplacer. Il y a d'autres choses qu'on peut déplacer plus facilement, là, les piles de bois, éventuellement déplacer un chemin d'accès ou à déplacer les animaux qui se trouveraient en pacage au bord de l'eau, ben, c'est toujours bien d'y penser avant que l'inondation arrive. Effectivement. On peut aussi s'adapter, mais au niveau de l'imperméabilisation des sols, là, quand on voit les... Ça, c'est plus en ville, là, mais les grandes surfaces bétonnées où l'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol, ben, ça amplifie les phénomènes d'inondation. Donc, mais ça s'applique moins ici en région, on s'entend.
Okay. Et préparer également la fonte du printemps?
Ben oui, effectivement. Donc là, on est en plein là-dedans.
En plein dedans.
Exactement. Donc on peut penser à nettoyer les ponceaux de certains déchets ou de la glace qui pourrait s'y trouver pour effectivement qu'ils puissent fonctionner. Donc ça, c'est en plein temps. Là, on a vu les municipalités ces temps-ci creuser les golets, creuser les petits fossés un peu partout pour s'assurer que l'eau puisse bien s'écouler. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on appelle canaliser les écoulements, donc s'assurer que l'eau puisse bien circuler. On peut évidemment commencer à faire des réserves de sacs de sable si on sait que notre terrain est sujet aux inondations. Et on peut aussi commencer à calfeutrer les ouvertures, donc les fenêtres, les entrées des égouts. On peut adapter tout ça pour éviter que l'eau ne s'infiltre par là si on sait qu'on est à risque. On peut aussi, là on est dans une chronique environnement, donc je ferai un petit rappel sur penser à enlever tout ce qui peut être inondé de la zone inondable. Donc on parlait des remises tout à l'heure, mais si vous avez de l'essence, de l'huile dans votre remise, alors on espère que vous l'enleviez avant qu'elle se fasse emporter par une inondation. Donc pensez à bien dégager tout ça, je sais que c'est pas toujours évident, là, entre le moment où la neige fond puis l'inondation qui arrive, pensez à dégager votre terrain le plus possible. Puis évidemment tout ce qui est sécurité, faire des réserves de vivres pour au moins 72 heures, pensez au plan de mesures d'urgence aussi, votre municipalité vous a envoyé il y a quelques semaines normalement des formulaires d'informations pour savoir combien de personnes habitent chez vous, ce genre de choses-là. Donc ça fait partie des plans de mesures d'urgence au niveau municipal, mais vous pouvez aussi en faire un au niveau familial. Donc pensez qu'est-ce qui se passe en inondation, prévoir le coup, à faire votre propre plan, effectivement.
Parce qu'on a quand même pas mal de barrages sur le territoire, Monsieur Graffetot.
Ben oui, effectivement, là on parlait de la gestion plus... En fait, ce que je vous fais un peu comme portrait, c'est de regarder du local au plus global. Qu'est-ce qu'on peut faire comme réaction? Donc là, on l'a vu au niveau de chaque terrain, mais aussi il y a une certaine gestion des barrages sur le territoire. Alors là, je reviens un peu sur ce qui s'est passé au niveau des communications de la table des maires l'année passée. Il y a eu une certaine colère des élus en juin, lorsque le lac Témiscamingue était monté de 30 cm. Les élus s'étaient plaints de la mauvaise communication avec les gestionnaires de barrages. Bon. Alors, on sait qu'on a au Témiscamingue 41 barrages de forte contenance. La plupart sont là pour gérer justement la quantité d'eau et éviter d'inonder certains autres secteurs. On parle à Gatineau ou d'autres secteurs plus en aval de la rivière de l'Outaouais. Mais ces barrages-là, ils sont peut-être limités dans certaines contenances. Et en 2019, ce qu'on a observé, c'est que certains étaient arrivés à capacité maximale, puis il y avait des problèmes de communication entre les gestionnaires, des barrages, puis les gestionnaires du territoire comme les municipalités. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Je sais qu'il y a eu des discussions entre tous ces gestionnaires-là depuis l'année passée. Donc, a priori, ça va bon train dans ce sens-là.
Et planifier la réaction d'urgence aussi. On parle de première ligne, là.
Ben oui, c'est ça. Depuis les grosses inondations de 2017 et 2019, il y a eu une belle réaction du gouvernement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. L'année passée, on a parlé souvent de zones d'intervention spéciale. Ça, c'est des zones qui ont été reconnues comme inondables sur une récurrence de moins de 20 ans. Et pour lesquels il est plus permis de rénover ou de reconstruire des bâtiments. Ça, c'était un gros dossier l'année passée, mais là, en ce moment, c'est 776 municipalités qui ont des zones d'intervention spéciales. Il y en a plusieurs ici, au Témiscamingue. Il y a eu la mise en place d'un projet infocru, mais lui, il n'est pas prêt encore. Ça, c'est pour prévoir les crues en temps réel. Ça va être prêt normalement en 2023. Okay. C'est un projet du ministère de l'Environnement. Okay. Il y a un plan d'action en matière de sécurité civile. Donc, le ministère sécurité publique, qui a un gros plan pour prévoir les mesures à faire en cas de crue. Et ce ministère, il a mandaté notamment les OBV, dont je fais partie, pour aller prendre des mesures sur le terrain après les inondations pour marquer les plus hautes eaux, les plus hauts niveaux d'eau atteints. Donc ça, c'est une forme d'acquisition de connaissances en prévision, mettons. Et sinon, on parlait tout à l'heure de la cartographie des zones inondables. Donc ça c'est un financement qui a été donné par le ministère des Affaires municipales. Fait que là, on voit qu'il y a plusieurs ministères qui s'impliquent un petit peu dans ce dossier-là. C'est complexe, mais en gros, il y a une bonne réponse du gouvernement là-dessus. Mais tout n'est pas encore en place pour les prochaines années. Ça s'en vient. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent, en tout cas.
Et en terminant, tu voulais me parler de changement climatique aussi, hein?
Ben oui, malheureusement, ça c'est pas la meilleure nouvelle. Je peux terminer par autre chose après, mais c'est ça. C'est pas la meilleure nouvelle, mais quand on regarde les prévisions des changements climatiques, ça veut dire pour notre territoire plus de crues au printemps, plus de crues à l'automne, des phénomènes plus intenses. Et en résumé, ce qui est hors de l'ordinaire aujourd'hui va devenir la norme de demain. Donc je vous encourage à faire le maximum d'efforts pour limiter votre production de gaz à effet de serre. Parce que ça va nous bénéficier ici au niveau du risque des inondations. Donc on essaie de rester en dessous du fameux 1,5 degré d'augmentation. Voilà.
Bon, on a fait le tour, Monsieur Graffetot.
Ben oui, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas non plus à travailler sur la planification de l'entraide entre voisins. On sait qu'en temps de crue, ben, on est bien mal pris tout seul. Donc, passez à parler à vos voisins et à planifier votre propre réaction aux crues. Donc, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, M. Graveto. Et on va s'en sortir.
Oui, ça va bien aller, comme on dit.
Absolument. Bon, à la prochaine. Salut. Bye bye.